Voilà, donc aujourd'hui nous accueillons M. Mauricio Lopez, qui est docteur en informatique, spécialiste d'intelligence artificielle et qui travaille dans le domaine de la représentation des connaissances. Il a débuté sa carrière en tant que chercheur à l'Institut National Polytechnique de Grenoble, puis il a intégré Bull, où il a dirigé le projet réalisé en collaboration avec l'INRIA au sein du groupe d'intérêt économique DIAD, où il a développé la technologie qui est utilisée aujourd'hui par Quelcoût, c'est-à-dire, et chez Bull, il a principalement joué le rôle de directeur dans plusieurs projets de recherche et développement dans les domaines de bases de données et de systèmes distribués. Actuellement, Mauricio Lopez est un des fondateurs de la société Quelcoût.com en tant que directeur technique. Il a développé au sein donc de Bull et de Quelcoût une technologie particulière. C'est une technologie de médiation de l'information qui utilise des agents pour accéder à des sources d'informations hétérogènes et distribuées sur le réseau. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Ce que je vais essayer de faire, c'est un bon équilibre entre une présentation à caractère technique, mais pas vraiment scientifique, où je vais vous donner d'abord une introduction à la technologie agent, de manière à ce que vous compreniez comment on a évolué du point de vue des techniques, de la programmation des ordinateurs, de quelque chose qui était anciennement un peu monolithique dans la structure des programmes, jusqu'à quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus souple aujourd'hui, qui est la notion d'agent. Ensuite, je vais illustrer comment ces agents sont utilisés commercialement dans le domaine du commerce électronique par Quelcoût.com pour implémenter le service des guides d'achat sur Internet, qui est donc le produit commercial de cette société. Et je finirai par une brève description du cheminement qui nous a amené du projet des recherches et développement jusqu'à une exploitation commerciale dans un domaine bien particulier, cheminement qui n'est pas évident du tout, et je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc je vais rester assis ici, j'ai tombé la veste avant que vous ne arriviez, excusez-moi, donc il faisait très chaud, et je vais essayer de faire la chose suffisamment dynamique malgré ma position statique. Je vais utiliser le curseur, donc la souris, pour pointer sur l'écran. Donc pour indiquer et donc attirer votre attention sur certains éléments sur les transparents. Donc je vais commencer par une introduction à ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'informatique distribuée, qui a ses origines dans les années 50. Vous savez, on a commencé par une informatique qui était plutôt centralisée, où on avait un ordinateur qui était capable essentiellement de faire des calculs arithmétique pour beaucoup, et qui faisait par exemple la paye des sociétés et d'autres applications à caractère commercial, mais aussi beaucoup de calculs aussi scientifiques. Beaucoup ont été développés pour des raisons militaires, par exemple pour construire des bombes atomiques, donc plusieurs domaines d'application. Donc cet ordinateur, quand il fonctionne, ce qu'il exécute, c'est une suite d'instructions d'un langage qui est un langage machine et qui réalise des tâches, que ce soit des calculs techniques, scientifiques ou autres. Et il est capable de manipuler un certain nombre d'éléments, par exemple une imprimante, un écran, un disque magnétique sur lequel il est capable de stocker des informations ou des bandes magnétiques qui sont utilisées plutôt pour le stockage de longue durée. On est passé donc d'une première étape où tout était fait par un seul ordinateur avec des programmes assez monolithiques, à une deuxième génération, qui est une génération dans laquelle on commence déjà à voir les prémices des réseaux, où on a un ordinateur dit client et un ordinateur dit serveur qui ont des spécialités. Donc les programmes d'ordinateur qui s'exécutent chez le client sont plutôt destinés à gérer l'interaction avec l'utilisateur sur un écran ou à imprimer des informations ou des chèques, par exemple, dans les cas où on gère la paye d'une société. Par contre, un ordinateur souvent plus puissant est spécialisé dans la gestion des données et dans les calculs lourds. Donc, il va gérer, par exemple, un gros disque qui est capable de stocker des grandes quantités d'informations. Vous pouvez imaginer ce que ça fait dans une banque, dans une compagnie d'assurance, dans une grosse administration, dans un gros constructeur automobile, etc. Donc, on passe à une informatique dans laquelle, à l'intérieur des sociétés ou des administrations, on peut mieux utiliser les ressources donc, de l'informatique en ayant des ordinateurs plus petits pour des tâches plus simples, sur lesquels travaillent les gens. Donc il y a une interactivité qui s'est faite au niveau de l'ordinateur client avec l'utilisateur. Par contre, le serveur n'interagit jamais avec l'utilisateur en soi. Et dans cette évolution, on est arrivé à l'informatique distribuée qu'on connaît aujourd'hui, où en fait tous les ordinateurs sont connectés à un réseau, que ce soit un réseau local à l'intérieur d'une entreprise ou un réseau donc plus large comme Internet, qui est bien connu aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve avec des ordinateurs clients qui sont en général des PC, donc des ordinateurs personnels. Et on a spécialisé les serveurs. On a maintenant des serveurs de données qui se spécialisent dans la manipulation des données, donc accéder des grosses banques de données, et des serveurs dits d'applications. Donc les serveurs d'application, et c'est lui qui va exécuter les programmes qui font par exemple la paye à proprement parler. Et si ces serveurs d'application a besoin d'accéder des données qui sont stockées ici, il va s'adresser à travers les réseaux au serveur de données pour lui demander les informations dont il a besoin pour s'exécuter. Et pareil, les clients, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, c'est ici qu'on va, par exemple, dans une banque, c'est connecté à un serveur d'application, supposé qu'on veut voir si un client peut lui accorder un prêt. Donc, il y a un serveur d'application ici qui fait des simulations, qui vérifie des conditions sur la possibilité de donner un prêt à la personne et qui peut éventuellement s'adresser au serveur de données de la banque pour aller voir l'historique de ses clients dans la banque. Donc cet élément donc réseau et distribution des traitements est très important du point de vue du placement des ordinateurs et des applications, donc les applications qui sont de programmes. Et on a une contrepartie du point de vue de l'évolution de la manière dont on a organisé les logiciels. Donc un ordinateur exécute des programmes qui sont des suites d'instructions, à la manière d'une recette de cuisine. Donc si vous exécutez une recette de cuisine, vous allez suivre pas à pas les instructions qui sont données dans les livres de recettes de cuisine. L'ordinateur fait exactement la même chose. Et donc on est passé d'une période dans laquelle, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était assez centralisé, et le programme donc, qui réalisait la paye d'une société, par exemple, avait ce qu'on appelait un programme principal, qui faisait en gros la coordination des différentes procédures. On appelait ça des procédures, par exemple, une procédure qui faisait le calcul des charges sociales, et une procédure qui imprimait les chèques, etc., etc. Et donc, il y avait une structure, déjà, mais qui était assez plate, quand même. Pareil, ces programmes-là manipulaient une imprimante, un écran, un disque, etc. Et on est passé, aujourd'hui, à une organisation des logiciels qui ressemble plus à une organisation d'une société humaine, dans laquelle, en fait, on va avoir des espèces d'unités de calcul qui peuvent être considérés comme des individus qui ont une spécialité. De la même manière que dans la société humaine, on a un charpentier, on a un menuisier, un plombier, un comptable, etc., eh bien, on va avoir des programmes qui sont spécialisés. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter ici. Donc, ceci est ce qu'on appelle un objet. Donc, dans le jargon aujourd'hui de la programmation, on dit ces programmes-là, qui est capable, par exemple, de gérer des messages dans le cadre d'une messagerie électronique. Supposez que vous êtes dans le cadre d'un fournisseur d'accès Internet qui souvent vous offre un service de gestion de votre courrier électronique gratuit. Donc là, vous allez avoir des programmes qui vont être appelés des objets qui sont capables de gérer les messages. Et on va distinguer trois parties dans ces programmes. D'une part, l'interface, dans laquelle, en fait, le programme dit ce qu'il est capable de faire. Ce programme message est capable de lire des messages, d'écrire des messages, de les envoyer. À chaque fois, ce qui est en parenthèse, c'est ce qu'on appelle les paramètres, donc qui sont des indications particulières donc qui sont données à ces programmes sur la manière de dire le message, de l'écrire ou de l'envoyer. Par exemple, pour l'envoyer, c'est vers quelle entité l'envoyer par, donc ailleurs, à un autre ordinateur, à travers un réseau particulier, etc. La deuxième chose qu'on distingue, ce sont les traitements. Donc, c'est la suite d'instructions à proprement parler de cet objet message, et on va en distinguer plusieurs, donc qui correspondent aussi à ce qu'il sait faire. Par exemple, ici, il dit qu'il sait envoyer un message. Donc, on aura la suite d'instructions qui sont chargées justement d'envoyer un message particulier à travers le réseau à quelqu'un d'autre. Donc, toutes les instructions seront là-dedans. Et le dernier élément qu'on distingue, ce sont les données. Donc, ces traitements-là manipulent des données, ne serait-ce que le texte du message, par exemple. Et à un moment donné, ce texte-là a pu être stocké sur un disque. Donc, ces données sont aussi bien celles qui sont dans la mémoire de l'ordinateur, donc qui sont manipulées directement par ces programmes-là, mais aussi des données qui peuvent être stockées dans un disque qu'à un moment donné, donc ce programme va lire pour les manipuler dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, on arrive donc à une structure dans laquelle on va, pour ainsi dire, atomiser les traitements dans des entités qu'on appelle objets, qui sont des entités très spécialisées dans certains traitements. Et on arrive à une programmation des applications, donc, qui est dite à objet. Donc, on se retrouve avec des objets, par exemple un objet courrier, des objets boîte aux lettres, des objets messages, et donc dans l'application dont j'ai parlé tout à l'heure de gestion du courrier, cet objet courrier va créer des objets boîte aux lettres, par exemple, un objet par utilisateur qui a son service sur LibertySurf, n'importe qui d'autre. Donc, il va envoyer ce qu'on appelle des messages à ces boîtes aux lettres, par exemple, remplir. Donc, la boîte aux lettres va recevoir le message remplir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder s'il y a des messages, par exemple, pour Mauricio Lopez, et elle va se remplir avec tous les messages qui sont arrivés pour Mauricio Lopez. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ce qui se passe dans le monde réel. Vider, c'est l'opposé. Il y a Mauricio Lopez qui arrive, qui dit « je voudrais lire mon courrier ». Et donc, l'objet courrier va dire à la boîte aux lettres « eh bien, vide-toi ». Donc, tous les messages qui sont pour Mauricio Lopez sont vidés pour les montrer à l'utilisateur. Et de l'autre côté, ce même objet courrier va créer des objets messages auxquels il va envoyer des messages, encore une fois, donc c'est le jargon, il utilise les mêmes termes, messages, mais il va demander à cet objet message, par exemple, d'écrire le message, et du coup cet objet va démarrer une interaction sur l'écran pour que l'utilisateur puisse taper son message, envoyer, etc. Donc c'est une programmation dans laquelle en fait tout se passe comme s'il y avait des individus qui interagissaient les uns avec les autres. Et chaque individu demande à l'autre de faire ce dont il a besoin et qu'il ne sait pas faire, mais que l'autre sait faire. Donc ça commence à ressembler, disons, à une organisation sociale des collaborations entre les individus qui sont spécialisés dans des différentes tâches. Et on arrive donc à la définition d'agent. Donc toute cette introduction était nécessaire pour mieux comprendre ce que c'est qu'un agent. Donc tout d'abord, c'est un logiciel, donc un programme d'ordinateur. Et a fortiori, c'est un objet, tel que je viens de le décrire. Donc, ces objets, pour que ce soit des agents, eh bien, ils doivent remplir certaines caractéristiques. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être remplies toutes forcément. Mais aujourd'hui, les gens qui font de la programmation à base d'agents ont tendance à faire des agents qui se comportent de la manière que j'indique ici. D'une part, ils ont un comportement autonome, c'est-à-dire qu'ils sont relativement indépendants, ils contrôlent ses actions, donc il sait toujours dans quel état il est. Et par exemple, l'objet, si c'est un agent qui gère les messages, eh bien, il sait qu'il est au milieu de la production d'un message, qu'il ne peut pas s'arrêter comme ça, que si on lui demande de s'arrêter, il va demander à l'utilisateur s'il faut vraiment qu'il s'arrête, s'il est sûr qu'il veut qu'il s'arrête, etc. Donc, ils ont une certaine autonomie. Ils sont sociables, ils interagissent avec d'autres, donc ça correspond à cette capacité dont j'ai parlé tout à l'heure, d'un objet qui va demander à un autre d'exécuter une certaine tâche parce qu'il ne sait pas l'exécuter lui-même. Donc, ils ont la possibilité d'interagir directement les uns avec les autres. Ils sont réactifs en général parce que, par exemple, ils peuvent percevoir l'environnement ou réagir au changement. Par exemple, vous pouvez avoir un agent qui surveille un site qui annonce les cours de la bourse. Et si vous lui avez demandé de surveiller certaines valeurs, par exemple, eh bien, il a la capacité de percevoir l'environnement. Dans ces cas-là, c'est est en train de lire tout le temps les informations qui viennent d'un site internet particulier, par exemple, qui donne les informations sur la bourse, et réagir au changement, par exemple, si l'action arrive à une certaine valeur, il va, par exemple, automatiquement vous envoyer un message en disant « attention, attention, telle valeur a changé, et donc c'est peut-être intéressant d'acheter ». Finalement, ils sont proactifs, c'est-à-dire qu'ils prennent l'initiative avec un but précis. Là, il y a un élément, disons, un peu plus d'intelligence. Par exemple, on va reparler dans le cadre du domaine, du commerce électronique. Vous pouvez avoir des agents qui prennent des initiatives, par exemple, des négociations de produits dans le but d'obtenir le prix le plus bas possible sur le marché. Donc je vais vous donner quelques exemples d'applications, justement dans le commerce électronique. Vous pouvez donc avoir des agents qui sont capables de chercher des produits au meilleur prix ou même de faire de la négociation. Dans les cas d'une recherche, c'est assez simple, enfin c'est assez simple entre guillemets, c'est-à-dire que l'agent va se connecter à des sites qui vendent des produits, leur demander quels sont les produits qu'ils vendent, à quel prix, etc. Et il va essayer de trouver le produit que vous voulez au meilleur prix. Dans les cas de la négociation, c'est plus compliqué. Là, il faut de l'intelligence, puisqu'il faut que l'agent ait un interlocuteur agent du côté de celui qui vend, de manière à ce qu'il puisse négocier. Donc aujourd'hui, il y a des études assez poussées, y compris qui prennent en compte le comportement humain en termes de négociation, de manière à le reproduire dans des programmes d'ordinateur qui vont être capables de négocier des prix de certains produits. Donc dans le futur, on verra ça apparaître. Aujourd'hui, c'est du domaine de la recherche. Vous pouvez imaginer aussi au niveau de votre organiseur, donc il y a de plus en plus des gens qui ont des organiseurs, et les organiseurs vont, pour partie, remplacer les ordinateurs personnels ou portables. Donc ils sont capables, par exemple, de gérer du courrier électronique, donc du mail. Ce qu'on appelle des news, c'est des informations donc qui arrive un peu comme à la manière d'un journal, mais dans des domaines particuliers. Par exemple, vous pouvez vous abonner à des informations sur les agents ou sur la bourse, etc. Et donc, vous pouvez avoir votre organiseur, qui va être un petit objet grand comme ça, qui va être capable de trier le courrier automatiquement, donc grâce à un agent qui va surveiller le courrier qui arrive, qui va le trier entre le courrier qui vient de vos amis, le courrier professionnel, etc., que s'il voit qu'il y a des informations sur un domaine qui vous intéresse parce que vous lui avez dit que ça vous intéressait, il va immédiatement mettre en évidence ces informations-là. Par exemple, il va vous les afficher automatiquement sur l'écran de l'organiseur. Ou éventuellement, s'il y a une information intéressante qui arrive, il peut rechercher par lui-même. Donc, il va prendre l'initiative de se connecter au réseau et rechercher des informations qui sont liées à celle qui est arrivée et qui vous intéresse particulièrement. Finalement, on peut avoir des agents qui vont tourner sur votre organiseur et qui auront des comportements un peu plus intelligents et plus complexes. Par exemple, ils détectent un message d'acceptation d'un article à une conférence. Il va vous avertir par un message ou peut-être par un bip sur l'organiseur. Et puis, il va se mettre à rechercher des informations pour les voyages, que ce soit des billets de train, l'hôtel, etc. Donc, grâce au fait que tout ce qui est communication sur Internet va se généraliser entre les utilisateurs et puis les fournisseurs de services et d'informations, que ce soit les hôteliers ou les compagnies aériennes, etc. Je vais maintenant vous donner une idée de type d'agents qui existent ou qui peuvent exister. Il faut être conscient du fait que la programmation à base d'agents est une technologie qui débute sur le plan commercial. Jusqu'ici, ça a été du domaine de la recherche et du développement. Donc, je dirais qu'il y a trois types principaux d'agents. D'abord, des agents normaux, qui sont bêtes et disciplinés, mais ils sont quand même un petit peu intelligents. Ce sont des agents dont je vais vous parler tout à l'heure. Les agents que nous utilisons chez Quelcoût sont de ce type-là. il y a des agents dits intelligents. Ici, on retrouve tout le domaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que cette discipline dans laquelle les chercheurs essayent de donner au programme et donc aux agents un comportement humain intelligent, on va les retrouver ici. Et on commence à utiliser un jargon différent. On va parler de la connaissance de l'agent, on ne va plus parler des informations qu'il manipule. Vous voyez, il y a un petit jargon qui change. Mais ces connaissances sont quand même de la connaissance. C'est-à-dire que non seulement il sait des choses factuelles, mais il est aussi capable des déductions. Donc il a une connaissance des manipulations des informations. Et il peut faire des déductions, par exemple. Des croyances, c'est-à-dire que ce sont des informations qui ne sont pas tout à fait précises. Et donc l'agent sera capable de réagir à des informations qui ne sont pas très précises parce qu'il croit que telle chose. Et donc il aura une réaction comme ça. Ce n'est pas la même chose que réagir parce qu'il sait telle chose. Donc on commence à essayer de reproduire le comportement humain dans les programmes d'ordinateur. Donc ils pourront agir avec une intention particulière ou parce qu'ils se sentent obligés. Ce qui n'est pas la même chose d'agir parce que, bon, il va le faire bêtement. Et au bout du compte, peut-être, ils seront capables d'avoir des émotions et donc réagir en fonction de ça. Et quelque chose qui va être très intéressant, c'est la résolution des problèmes en collaboration. Par exemple, tout à l'heure, je parlais de votre organisateur qui essaierait de vous organiser un voyage. Eh bien, il se peut que l'agent qui tourne sur votre organisateur, il soit capable de faire une partie de l'organisation du voyage, par exemple, ce qui concerne l'hébergement, mais qu'il ne soit pas capable d'aller vous trouver un billet d'avion au meilleur prix. À ce moment-là, il va s'adresser à un autre agent qui est capable de faire ça, qui pourrait éventuellement s'adresser à un autre agent, et ainsi de suite, de manière à ce qu'ils apportent une solution à votre problème en collaboration. Donc tout ça, c'est en cours des recherches. Et donc il y a des prototypes qui existent, mais qui sont encore à un stade, disons, de l'application au niveau maquette. Hein, il n'y a pas d'application commerciale. Les agents mobiles sont un petit peu plus avancés. L'idée des agents mobiles, c'est qu'on peut avoir des agents qui s'exécutent soit sur l'ordinateur de l'utilisateur, donc c'est lui qui est propriétaire de l'agent, pour ainsi dire, mais qui sont capables aussi de se déplacer à travers les réseaux pour aller s'exécuter sur un autre ordinateur. Donc ça, c'est intéressant, par exemple, s'il est nécessaire d'aller sur un ordinateur pour aller manipuler beaucoup d'informations qui se trouvent sur cet ordinateur-là. La contrepartie serait de rester sur l'ordinateur sur lequel il est et, à travers les réseaux, obtenir les informations, ce qui va générer énormément de trafic sur le réseau, qui va le ralentir, etc. Donc il est intéressant, dans beaucoup des cas comme celui-là, de faire que ce soit plutôt l'agent qui se déplace vers un autre ordinateur que de ramener toutes les informations dont il a besoin. Donc on va parler de la navigation des agents, donc ils vont naviguer entre les ordinateurs. On va parler d'un problème particulier de sécurité parce que lorsqu'un agent arrive sur un autre ordinateur, par exemple pour lire des données, eh bien, s'il est malveillant, il va pouvoir, par exemple, détruire des informations sur cet ordinateur-là. Et du coup, on doit exécuter l'agent dans un environnement particulier qui le contrôle pour éviter qu'il exécute des actions malveillantes. On va parler des communications. Ce coup-ci, elle sera un peu plus compliquée parce que comme l'agent se déplace d'ordinateur en ordinateur, si on veut communiquer avec lui, il faut savoir où il est. Donc il faut des mécanismes un peu plus complexes pour pouvoir communiquer avec cet agent. Et on va parler des cycles de vie parce que l'agent, il peut commencer à s'exécuter sur un ordinateur, s'arrêter de s'exécuter sur celui-là pour migrer sur un autre et reprendre son exécution. Peut-être pour la finir dans cet ordinateur-là, et à ce moment-là, il aura fini sa vie sur celui-là, ou peut-être il va s'interrompre à nouveau, revenir sur le premier, peut-être migrer sur un autre, etc. Donc il passe par un cycle de vie, d'exécution, arrêt, réexécution, et peut-être à la fin, donc fin de vie. Je vais utiliser maintenant un exemple qui est celui des recherches des produits sur Internet pour illustrer ces propos. Et on retrouve donc le service qui est fourni par quelqu'un. Supposez quelqu'un qui quelqu'un qui souhaite acheter par correspondance sur Internet. Donc aujourd'hui, sur Internet, vous trouvez les catalogues des produits sur des tas de domaines, comme les voyages, les livres, les jeux vidéo, les CD, etc. Et de la même manière qu'anciennement, on ne les trouvait que sur papier, qu'on pouvait commander par correspondance. Donc aujourd'hui, on peut commander directement sur son ordinateur. Par contre, quelqu'un qui veut commander un produit va se trouver confronté à la multitude des sites qui existent, donc où il peut chercher le produit qui l'intéresse. Donc, on a dans les cas de l'utilisation d'agents, on pourrait avoir donc cette personne pourrait avoir un agent qui va chercher un produit. À ce moment-là, l'agent représenté ici par cette petite tête jaune, il va s'exécuter grâce au service d'un serveur d'agent. Le serveur d'agent est un programme particulier qui offre aux agents tout ce qu'il faut pour qu'il soit créé, interprété, déplacé et terminé éventuellement. Je parle ici d'interprétation parce que c'est un moyen de gérer ces problèmes de la sécurité. L'interprétation, c'est par opposition à une exécution directe, c'est-à-dire que l'agent est une suite d'instructions et si on exécute directement ces instructions-là, en quelque sorte, on ne va pas se poser des questions. Donc on les exécute, et si ces instructions étaient malveillantes, l'agent aurait pu, par exemple, détruire des informations sur l'ordinateur. Pardon. Donc, un interprète, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire que l'agent, il va lui dire, « Ok, je voudrais exécuter telle instruction. » Et l'interpréteur, il va dire, « Ah, est-ce que tu as... » Il va regarder s'il a le droit ou pas. Est-ce qu'il a le droit d'accéder à telle information, comme lui a dit l'agent, ou pas. Et donc, dans ces serveurs d'agents, il y a des interpréteurs qui vont donc vérifier instruction par instruction pour éviter les malveillances. Et d'un côté, on peut avoir un client donc, qui exécute des agents qui vont, par une infrastructure des communications, accéder à un autre ordinateur, donc ça se passe d'un ordinateur à l'autre, pour aller voir, par exemple, quels sont les produits vendus sur cet ordinateur-là, par exemple, par un site de commerce électronique, des livres. Et à ce moment-là, il pourrait éventuellement dialoguer avec des agents qui sont locaux et qui sont les agents qui lui communiquent les informations sur le catalogue des produits qui est mis à la disposition de l'utilisateur. Ou des agents avec lesquels il pourrait éventuellement négocier. Par exemple, s'il est possible de négocier un prix parce que j'en achète plus de 100, etc. Donc il peut négocier. Si l'agent il veut se déplacer pour venir s'exécuter ici, il va s'exécuter sous le contrôle du serveur d'agent. C'est le cas, par exemple, d'un agent mobile qui va venir ici s'exécuter localement sur cet ordinateur-là pour éviter tous les transferts d'informations, comme on le disait tout à l'heure. Il existe aujourd'hui des serveurs d'agents qui ne portent pas ces noms-là, mais qui ont ces rôles. Par exemple, ce qu'on appelle la machine Java. On parle de la machine virtuelle Java. La machine virtuelle Java, c'est tout simplement un environnement d'exécution pour programmes dans le langage Java qui sont interprétés justement pour éviter tous ces problèmes de sécurité. Et il y a aujourd'hui déjà un serveur d'agent mobile qui s'appelle Telescript et qui permet justement de faire que les agents migrent d'un site à l'autre pour s'exécuter. Je vais revenir maintenant à la recherche des produits sur Internet et je vais l'illustrer, ce problème des recherches des produits, en utilisant des cas réels donc, qui existent sur Internet. Supposez que vous voulez acheter un livre et qu'on vous a dit, regardez sur le site de la page, donc vous faites www.alapage.com, vous tombez sur cette page-là, la page d'accueil, ok, vous voyez qu'il y a livre, musique, etc., vous vous intéressez au livre, vous cliquez sur livre, vous arrivez sur une autre page, vous dites, mais moi je voudrais acheter le zèbre d'Alexandre Jardin, où est-ce que je peux voir? Vous découvrez qu'en allant un peu plus bas, il y a un petit formulaire dans lequel vous pouvez dire que le titre du livre que vous souhaitez c'est le zèbre, que l'auteur c'est Jardin. Vous dites, ok, ça suffit, je vais rechercher. Et il va vous ramener une page dans laquelle il y a en fait deux livres qui répondent à votre requête. Ici, vous en voyez un donc, qui visiblement est avec une couverture de luxe, etc., qui coûte 110 francs. Ici, on a un autre qui est de la collection Folio, qui est moins cher, etc. Donc, vous retrouvez donc, des informations sur les produits, vous voyez le prix, vous voyez qu'il y a un prix particulier à la page qui est moins cher, etc. Si vous souhaitez le commander, vous pouvez cliquer sur « Commander ». et éventuellement vous arrivez sur cette page-là où il y a plus d'informations, en particulier les ISBN, le numéro du livre, la date de parution et d'autres informations de ce type-là. Donc vous avez un complément d'informations et vous pouvez aussi le commander en le mettant dans le caddie. Et ensuite, vous tombez sur le classique de remplir un formulaire avec votre numéro de carte bleue, etc. Donc voilà le cheminement que vous avez fait pour essayer de trouver et commander un livre. Mais vous dites, ah, peut-être que là, c'est un peu cher, je ne sais pas, je vais voir ailleurs. Ah, excusez-moi, hop, je reviens à celui-là. Je vais regarder sur chapitre.com. Là, c'est pas le même look, comme on dit, donc la même apparence. C'est une page qui est organisée comme ça. La recherche s'est faite directement en mettant ici aussi bien des informations sur le titre du livre. Donc je tape le zèbre, mais derrière je mets jardin, puis je clique sur OK. Effectivement, il me trouve deux livres. Donc apparemment, c'est le même. 34,20 et 54,50. Vous n'êtes plus sûr si c'était le même prix ou pas. Vous allez voir. Bon. Donc, ce que je veux illustrer là, c'est que l'utilisateur qui cherche un produit va être confronté en fait, à différentes manières de naviguer sur Internet selon le site auquel il s'adresse. On va lui présenter les informations de manière différente et en général, il n'est pas très sûr sur que c'est exactement le même produit et que c'est vraiment moins cher que l'autre. Donc, un service comme celui offert par quelcoo.com, c'est un service de guide d'achat. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous éviter de chercher sur 2, 3, 4, 5 sites différents. Et c'est là dans un certain nombre de domaines comme l'informatique, les jeux, IFI vidéo, etc. Et en particulier, les livres. Donc, si vous allez chercher le livre d'Alexandre Jardin en utilisant quelcoo, ce que vous allez faire, donc vous allez cliquer là, vous allez arriver sur une page qui vous permet tout de suite de dire quel est le titre, l'auteur, le prix, etc. du livre qui vous intéresse. Donc, on met le zèbre, en auteur Jardin, vous cliquez sur Go et on vous présente une liste donc des produits qui correspondent à vos critères de recherche. En vous disant, Axeléa vous vend ces produits-là, 33,25 francs, donc ils seront donnés par prix. Vous pouvez avoir plus de détails et puis éventuellement vous pouvez aller l'acheter chez le marchand. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vois ici chapitre et à la page hein, où j'avais cherché tout à l'heure. Effectivement, il y a la version à 34,20 francs, donc c'est le même prix. Mais je vois aussi que Novalis et la FNAC me le vendent au même prix. Ils se sont alignés, ce n'est pas une surprise, mais c'est encore mieux parce qu'Axeléa le vend un petit peu moins cher. Donc dans un livre, une différence d'un franc, ce n'est pas très important, mais si c'est un frigo à un ordinateur, ça peut se chiffrer en centaines de francs. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc c'est ce que fait quelcoo. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est vous expliquer comment il le fait, en utilisant une technologie à base d'agents. Donc les agents de quelcoo ont pour rôle de trouver des produits qui répondent à certains critères, comme on l'a vu tout à l'heure pour les livres, c'est le cas très simple où on indique les titres et l'auteur, qui sont vendus par un marchand ou par des marchands sur Internet. L'origine de ces agents est une technologie développée par le GIE DIAT, comme a été dit en introduction, qui est un groupement d'intérêt économique entre Bull et l'INRIA. Donc je vous parlerai tout à l'heure du cheminement pour arriver à développer cette technologie. Cette technologie n'a pas seulement comme application cette recherche des produits sur Internet. Elle peut être appliquée dans tous les cas où il est nécessaire d'accéder à des informations qui sont distribuées sur le réseau pour les consolider et les rendre utilisables au niveau des applications de la même manière que tout à l'heure, la liste des produits, on vous la présente d'une manière dépouillée et facile à utiliser. Donc, d'autres types d'applications, par exemple, des dossiers patients intégrés dans les hôpitaux. Donc dans les hôpitaux, les informations sur un patient se trouvent en fait distribuées sur les différents services de l'hôpital. Et si vous voulez avoir tout l'historique, il va falloir accéder à des sources, à des bases de données qui sont dans les différents services. Donc c'est cette idée d'aller chercher des informations à plusieurs endroits pour les consolider, par exemple dans une table unique. Et il y a d'autres applications dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, le principe de fonctionnement est le suivant. Supposez donc que vous avez un utilisateur qui se connecte à un site comme quelcoo et qui cherche des livres, donc qui va remplir le zèbre et jardin, donc pour les titres et l'auteur. Et il va dire « chercher ». Ce qui va se passer, c'est que ceci qui n'est rien d'autre qu'une application, comme on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire un programme d'ordinateur qui exécute une suite d'instructions qui vont avoir pour charge de gérer l'interaction avec l'utilisateur et aller lui chercher ce livre-là. Il va générer ce qu'on appelle une requête dans un langage qui s'appelle SQL ou SQL. C'est un langage standard des recherches d'informations sur les bases de données. Ça ressemble à ça, je ne vais pas venir dans les détails, mais c'est sélectionner tout ce que vous savez sur les livres, tel que le titre contient le zèbre et l'auteur contient le jardin. Cette requête-là va être envoyée à ce qu'on appelle une infrastructure de médiation de l'information. C'est quelque chose qui est un intermédiaire de recherche d'information entre celui qui consomme l'information et celui qui produit l'information. Celui qui produit l'information ici, ce sont des sites sur Internet comme la FNAC, à la page, chapitre.com, etc., qu'on a vu tout à l'heure. Et cette infrastructure de médiation va recevoir cette requête qui lui demande de trouver les livres dont le titre et les œuvres dont l'auteur est jardin. Et il va s'adresser à tous ces sites-là, il va récupérer les informations de ces sites, il va les consolider au niveau d'une seule table qui contient donc quelle est la source, donc quel est le site qui vend le produit, son titre, auteur et d'autres informations. Et à partir de là, on va pouvoir les présenter à l'utilisateur, comme on l'a vu tout à l'heure dans les cas du site Quelcoo. Donc, cette infrastructure de médiation sert à se connecter à travers les réseaux aux différents sites Internet, leur poser la requête qu'on lui a posée à lui et qu'on a vu tout à l'heure qui était possible de poser, puisqu'on a interrogé tout à l'heure le site d'Alapage et le site des chapitres avec cette même requête. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que l'utilisateur ne pose qu'une seule fois la requête au niveau de Quelcoo, et derrière, c'est cette infrastructure de médiation de l'information qui est totalement écrite dans ce langage Java dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va s'occuper d'accéder à tous les sites et de consolider l'information pour la présenter à l'utilisateur. D'un point de vue de l'organisation des programmes, comment ça se passe? Eh bien, on a deux types d'objets, dans le sens qu'on a dit tout à l'heure. Un objet qui s'appelle médiateur, qui est là pour gérer les requêtes qui arrivent, par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure, qui met dans les livres le zèbre écrit par Jardin, qui va gérer ce qu'on appelle une vue globale sur l'ensemble d'informations disponibles. Cette vue globale est en fait l'union de vues locales. Une vue, c'est ce que je vois des sites Internet qui vendent des livres. Donc, dans la page, ce que je vais voir, c'est l'ensemble des livres qui sont vendus par la page. Ici, la vue pour celui-ci, c'est l'ensemble des livres vendus par la FNAC. Et l'accès aux informations, donc aux livres vendus par la page, est fait par un agent spécialisé qui est capable d'interagir avec le site dans la page et lui dire, OK, dis-moi, est-ce que tu vends un livre qui s'appelle Le Zèbre et qui a été écrit par Jardin, et il va lui répondre avec des informations que je vais vous détailler tout à l'heure et que l'agent va manipuler. Donc, ce sont les agents qui s'adressent au site, qui les interrogent, qui récupèrent les résultats de l'interrogation, qui les remontent à cet objet médiateur qui va composer un résultat en faisant l'union des résultats qui lui ont été remontés par tous les agents. Et c'est ces résultats-là qui va remonter à l'application, qui va le présenter de manière dépouillée et lisible, comme on l'a vu tout à l'heure, à l'utilisateur. Je vais maintenant vous détailler les fonctions de ces agents-là. Ces agents qui sont donc capables d'interagir avec un site Internet des commerces électroniques pour savoir quels sont les produits qu'ils vendent, à quel prix. Donc, on a ici, par exemple, je vais utiliser un exemple différent, un agent qui est l'agent ANPE qui s'adresse au site des petites annonces d'emploi. Un emploi est un produit comme un autre. Aujourd'hui, vous n'achetez pas un emploi, mais vous cherchez un emploi qui vous convient et qui remplit certains critères de la même manière que vous cherchez un produit qui remplit certains critères, comme on vient de le voir. Donc c'est le même principe. Et donc, nous avons un agent qui est spécialisé dans l'interaction avec le site de la NPE, qui est un serveur web, donc le web, le World Wide Web, donc c'est les www, qui vous présente ce qu'on appelle des pages HTML. Donc, ce sont les pages donc, que votre navigateur est capable de vous afficher lorsque vous naviguez sur le web. Donc, cet agent, il va recevoir une requête, telle que sélectionner de la NPE tous les emplois des mécanos ou des techniciens dans la région Rhône-Alpes. Ça, c'est la requête qu'il reçoit. Ce qui va rendre comme résultat, c'est une table dans laquelle il va dire « Ok, j'ai trouvé un emploi des mécanos à Lyon, et ça, c'est la date de publication de l'annonce. » Voilà, et il va vous donner tout ce qui correspond à ces critères-là. Comment il va s'y prendre? Eh bien, il va faire plusieurs choses. D'abord, il aura un rôle d'interrogation de ces sites de la NPE. Comment il va interroger ces sites de la NPE? À travers un protocole qui s'appelle HTTP, qui est un moyen de communication donc, avec des sites Internet et qui permet de les interroger. Par exemple, il va lui demander « Est-ce que tu as des emplois qui répondent à ces critères-là » Évidemment, il ne pose pas la requête de la même manière parce que ici, ces sites, il n'accepte pas des requêtes dans ce langage-là. Il a lui-même son propre langage d'interrogation. Donc, cet agent-là va devoir traduire cette requête en termes d'une requête qui est compréhensible par ces sites-là. Ensuite, il va passer à une phase de navigation parce que l'information ne se trouve pas toujours sur une page. On a vu tout à l'heure avec les exemples d'Alapage et des chapitres qu'il fallait consulter plusieurs pages. Il y a des fois des allers-retours. Et donc, on va passer par des interactions en utilisant ces protocoles HTTP entre l'agent et le site de la NPE. Donc, c'est comme ça qu'il va récolter des informations. Et ces informations, il va les extraire des pages HTML qui lui sont présentées par le site ANPE. Par exemple, il va devoir faire de l'extraction d'informations. Quelque part, dans une page qui lui est présentée par le site ANPE, il y a l'information sur l'emploi qui est offert, dans quelle ville et quelle est la date de publication. Donc, il va devoir les extraire de là-dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il analyse l'information qui est dedans pour identifier l'emploi, la ville et la date. Une fois qu'il a extrait ces informations-là, il va les structurer sous la forme d'une table, parce que c'est comme ça qu'il va les présenter à l'application. Ensuite, il va peut-être transformer certaines informations. Par exemple, il va mettre toutes les dates au même format, de manière à ce qu'elles puissent être manipulées facilement. Et finalement, de manière très importante, il va filtrer les informations. Par exemple, dans ces cas précis, on peut voir qu'on a demandé ces emplois dans la région Rhône-Alpes. Par contre, ces sites-là, ils ne connaissent pas la notion des régions, ils connaissent la notion des villes. Et donc, l'agent devra filtrer les informations sur les différentes annonces d'emploi qui sont ici pour essayer de voir si la ville qui est indiquée ici est dans la région Rhône-Alpes. Et donc, lui, il aura une connaissance de quelles sont les villes qui sont dans la région Rhône-Alpes de manière à pouvoir filtrer les informations. Donc, ça vous donne une idée de toutes les fonctions qui sont remplies par un agent. Donc, vous voyez que ça peut être assez complexe et que ça implique des interactions, aussi bien avec, comme on l'a vu tout à l'heure, un objet médiateur qui l'interroge et avec un site qui fonctionne, ce coup-ci, comme une source d'information pour lui et donc duquel il va essayer d'extraire toutes les informations qui lui sont nécessaires. Une chose très importante dans notre cas, c'est que, comme il y a des centaines de sites de commerce électronique, il faut avoir des centaines d'agents, puisqu'il y a un agent par site avec lequel on interagit. Pour chaque site de commerce électronique, nous avons un agent qui interagit avec lui. Donc, il faut en produire beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a fait tous selon la même structure, une interface avec le médiateur, qui est celui qui les interroge, qui fait la coordination de l'exécution des autres procédures, donc par exemple procédure de traduction des requêtes, comme on l'a vu tout à l'heure, de manière à ce que la requête traduite puisse être posée à la source d'information, par exemple un site de commerce électronique, qui va répondre avec des pages HTML et qui vont passer par un processus de traduction des résultats dans lesquels on fait l'extraction de l'information des pages HTML, la structuration, la transformation, le filtrage, comme on l'a vu tout à l'heure. Et comme on doit construire et gérer des centaines d'agents, eh bien, on a ce qu'on appelle une boîte à outils qui permet de les construire, c'est-à-dire d'assembler tous les éléments qu'ils composent et qui seront différents selon le site, parce que par exemple ces modules ici qui font les échanges avec la source, eh bien il ne sera pas pareil puisque les sources, donc les sites Internet des commerces électroniques, ont tous un comportement différent, et donc la navigation avec les sites est différente à chaque coup. Donc, ces modules-là vont être différents, il faut le construire à chaque fois. Il faut faire ce qu'on appelle le configurer, c'est-à-dire, par exemple, lui donner l'adresse du site dans les, auquel il doit se connecter pour trouver les informations. On doit lui donner la structure des pages HTML desquelles il doit extraire les informations, etc. Ensuite, on doit les déployer, c'est-à-dire on le met dans un environnement dans lequel il peut être exécuté avec le médiateur avec lequel ils interagissent, et dans lequel ils ont accès au réseau pour pouvoir se connecter au site Internet, etc. Et ensuite, il faut les administrer. En particulier, ne serait-ce que pour s'apercevoir qu'il y a des problèmes de connexion entre l'agent et les sites des commerces électroniques et pouvoir réparer le problème. Donc ça, c'est un élément très important. Il ne suffit pas d'avoir des agents, il faut aussi pouvoir les produire rapidement et les administrer de manière efficace. Donc ça, c'est une problématique très importante pour nous. Et je voudrais finir avec quelques mots sur le cheminement que nous avons suivi. Donc pour aller de ce projet de recherche et développement qui a été conjoint entre Bull et l'INRIA, donc pendant 3 ans, qui a abouti à un prototype. Un prototype, c'est une maquette des logiciels qui n'est pas encore exploitable commercialement et industriellement parce que ce n'est pas assez rapide, ce n'est pas assez robuste, ce n'est pas assez facile à faire évoluer, etc. On est allé ensuite à une période dite des transferts des technologies, d'industrialisation et des prospections commerciales, c'est-à-dire qu'on consolide le prototype de manière à ce qu'il puisse être exploité industriellement, et on va le montrer à des prospects commerciaux en leur disant, regardez, on a cette technologie qui est capable de faire un certain nombre de choses, est-ce que ça vous intéressait éventuellement si on mettait un produit sur le marché, est-ce que vous l'achèteriez? Il y en a qui disent peut-être, je voudrais l'expérimenter, et donc on expérimente le prototype avec ses clients potentiels. Et en fait, quand on s'est posé la question dans quel domaine commerciaux, on va pouvoir exploiter cette technologie, on est passé par 3 phases. À l'époque où on était complètement dans l'idée donc c'est une société comme Bull qui va commercialiser, donc Bull est un grand constructeur informatique qui a comme client des banques, des compagnies d'assurance, des grosses industrielles, on a pensé faire ce qu'on appelle des services professionnels, et l'exemple, c'est le tableau de bord. Qu'est-ce qu'un tableau de bord? Je vais l'illustrer ici avec un tableau de bord bancaire. Supposé dans une banque où il y a un client qui veut par exemple faire un prêt, et vous allez d'abord voir ce qu'il a comme produit financier, en actions, en compte courant, etc. Donc pour voir la santé financière du client. Et ça implique accéder à des informations sur les produits financiers qui se trouvent sur une base de données ici et sur une autre base de données ici, éventuellement sur des ordinateurs différents. Une autre base de données dans laquelle se trouvent les informations sur les actions détenues par les différents clients, et puis une autre base de données dans laquelle il y a les informations sur les comptes courants des clients. Eh bien, on peut utiliser une infrastructure de médiation qui va être capable, donc, lorsque on va interroger ces services-là, d'aller trouver des informations sur les produits financiers, les actions et les comptes. Tout simplement, on aura la même procédure que tout à l'heure. Cette application-là va produire des requêtes dans ce langage SQL que cette infrastructure de médiation va traduire et adresser aux sources de données donc, qui conviennent, consolider un résultat et à partir de là, donc, afficher sur les tableaux de bord ces informations sur les produits financiers. On va faire exactement la même chose pour les comptes, donc pour les actions, et finalement, on fera la même chose pour les informations sur le compte. Donc, vous voyez, c'est une technologie qui peut être appliquée dans un domaine complètement différent de celui du commerce électronique et du guide d'achat qu'on a vu tout à l'heure. Donc, là, il faut que je fasse... Voilà. Ensuite, on a fait un plan business dans lequel on s'est dit on va faire des services internet comme les petites annonces dont je vous ai parlé tout à l'heure, et donc on a montré des services d'accès aux petites annonces d'emploi, petites annonces immobilières aussi bien pour la location que pour la vente des biens immobiliers, ou automobiles et motos. Et On a trouvé des clients. Aujourd'hui, par exemple, on a des services d'accès à des petites annonces qui sont offerts sur Voilà et sur Wanadoo, qui sont deux portails importants français, et qui accèdent à des petites annonces de cette manière-là. Donc, ce plan business est appliqué chez Quelqu'Où. Aujourd'hui, donc, on loue nos services Internet à d'autres portails. Et bien entendu, on a fini par être convaincu que le modèle business qui tenait vraiment la route, c'était celui du guide d'achat sur Internet, donc que je vous ai montré tout à l'heure, et qui est un service grand public qui permet aux gens de trouver les produits qu'ils cherchent, et ceci au meilleur prix. Donc c'est celui qu'on a fini par implémenter de manière, disons, principale. Donc voilà, ceci termine ma présentation. Donc je suis maintenant à votre disposition pour répondre à des questions, quelles qu'elles soient. Je suis prêt à tout.
Bonjour. Quelle est l'implication commerciale entre l'agent et la source ? Puisque à partir du moment où il y a un agent développé, la source n'a pas beaucoup d'intérêt à se modifier si elle veut rester accessible.
Exact. Donc c'est une question très intéressante parce que ça fait partie de la problématique de l'évolution des agents. Les sources, au départ, elles sont totalement indépendantes et bien entendu, elles ne nous doivent rien en quelque sorte. Donc on accède à la source pour, en quelque sorte, pomper des informations qui sont à cette source-là de manière à mieux guider les utilisateurs. Mais petit à petit, effectivement, il s'établit un lien de partenariat entre le guide d'achat et le site marchand, puisque les deux ont un avantage. Le site marchand a un avantage à ce qui est un guide d'achat, puisqu'il y a un trafic qui est généré chez le marchand à travers le guide d'achat. Et du coup, s'il modifie la source, donc la manière, par exemple, dont on accède à son site, il va informer le guide d'achat. Ou alors on se met d'accord sur une manière particulière d'interagir avec le marchand de manière à ce que les modifications soient mineures, je dirais, et qui ne perturbent pas les agents autant que l'agent aurait pu être perturbé parce que le site a changé. Des fois, les sites changent de look. Quand ils changent de look, ils vous changent d'endroit où ils affichent les informations à l'écran. Effectivement, ça perturbe l'agent qui n'est plus capable d'extraire les informations. Nous, par exemple, nous avons implémenté un système d'alarme qui est implémenté à l'intérieur de chaque agent, qui fait que l'agent se rend compte qu'il n'est plus capable d'extraire les informations parce que le site a changé. Il lève une alarme qui fait qu'on intervient pour faire les modifications nécessaires à ce qu'il puisse à nouveau accéder à l'information.
Oui, allez-y.
Comment Quelqu'Où gagne-t-il sa vie dans cette affaire ?
De deux manières. La première, ce sont des sommes qui sont payées par les marchands sur Internet pour rémunérer le trafic que Quelqu'Où génère chez eux. En tant que guide d'achat, Quelqu'Où est une machine à ce qu'on appelle qualifier les utilisateurs. Un utilisateur non qualifié est quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il va acheter, qui ne sait pas exactement quel prix il est disposé à payer et qui va utiliser Quelqu'Où pour être guidé. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il va pouvoir chercher les produits, comparer les prix. Sur Quelqu'Où, il y a aussi des services d'information à la manière des 50 millions de consommateurs avec des dossiers qui vous disent « Attention, si vous voulez acheter un appareil photo numérique, tenez compte de ceci et de cela ». Et donc, du coup, au moment où la personne aura choisi, il finit par dire « Ok, donc du coup, ce que je vais acheter, c'est ces modèles-là, qui est vendu par ces marchands-là, Quelqu'Où m'a permis de voir que c'est celui-ci qui le vend moins cher », et il clique sur l'URL du marchand. Et il arrive chez le marchand déjà avec une idée assez précise de ce qu'il va acheter. Donc, c'est ce qu'on appelle un utilisateur qualifié, qui a beaucoup plus de valeur pour le marchand qu'un utilisateur non qualifié, qui aurait été probablement l'utilisateur qui serait arrivé directement chez le marchand en se demandant qu'est-ce que je vais acheter, est-ce que je vais payer, etc. Et donc les marchands rémunèrent ces services-là, qui sont le service des qualifications des utilisateurs. Et la deuxième source des revenus, c'est tout simplement la publicité, ce qui est le grand classique sur Internet. Donc, désolé, vous verrez sur Quelcoup, comme sur beaucoup d'autres sites, les bandeaux publicitaires donc, qui sont souvent dans le haut de la page, ou alors sur la colonne droite, vous avez des vignettes publicitaires qui sont plus spécialisées parce que, par exemple, si vous êtes dans le domaine informatique, on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez acheter des livres, des CD, de l'informatique, etc. Donc si vous êtes dans le domaine informatique, vous aurez des vignettes à droite qui correspondent à des annonceurs qui sont des marchands en informatique. Donc ça, c'est de la publicité ciblée qui a plus de valeur que la publicité générique, disons, qui apparaît toujours dans le bandeau du haut.
Oui. Je me pose aussi une question sur la relation entre Quelcoup et la source d'information. Dans la mesure où, moi, en tant qu'utilisateur, si j'ai besoin de trouver une information sur un bouquin, je vais d'abord sur le site de Quelcoup. Ça veut dire que je ne vais pas aller sur les différents sites que vous avez cités. Donc, dans un premier temps, vous commencez par leur piquer, entre guillemets, des recettes publicitaires. Et dans un deuxième temps, une fois que j'ai le résultat de ma requête, mettons que vous ayez consulté une dizaine de sites, une dizaine de sources, vous faites un heureux et neuf malheureux. Ça fait donc neuf personnes, en théorie, qui ont intérêt à ce que vos agents ne sachent pas lire les informations qui sont disponibles sur leur site. Donc comment ça se passe concrètement avec les sites d'information, enfin de vente ?
Le commerce électronique sur Internet évolue très vite. Et heureusement, en Europe, nous avons déjà l'exemple des pays comme les États-Unis ou le Canada, où ça s'est développé avant nous. Et où la conclusion est qu'il n'y a qu'une seule chose qui paye, c'est la qualité du service. Donc effectivement, on pourrait penser que les marchands sur Internet essaieraient d'attirer un maximum d'utilisateurs par des moyens quelconques, c'est ce qu'on appelle acheter du trafic, hein, la publicité ou des tas d'autres moyens. Mais si les produits qu'ils vendent ne sont pas des qualités, si les prix qu'ils pratiquent ne sont pas les meilleurs, si le service après-vente, si le paiement n'est pas sécurisé, si ceci et cela, eh bien les utilisateurs vont se détourner de ces marchands. Ce qui fait qu'on arrive à en fait une concurrence assez importante entre les marchands, d'où le fait qu'il y en a certains qui disparaissent. Mais ça correspond à un nivellement par le haut. Et le guide d'achat contribue à ce nivellement par le haut, parce qu'il va permettre aux utilisateurs de se rendre compte de quel est le marchand qui offre effectivement le meilleur service. Ce n'est pas seulement les produits les moins chers. Donc au départ, effectivement, il y a moins de trafic chez les marchands, mais il faut savoir que le trafic des personnes qui cherchent des produits et qui vont effectivement voir des bandeaux publicitaires chez le marchand, ce n'est pas un trafic intéressant qui a de la valeur. Parce qu'il va voir des bandeaux publicitaires pour lesquels le site marchand est payé 20 centimes à chaque bandeau. Donc ça représente des sommes très petites. Donc si l'utilisateur voit des bandeaux publicitaires mais n'achète rien, ce n'est pas bien pour le site. Alors que si le guide d'achat lui amène un utilisateur qui est déjà qualifié et qui, avec une probabilité de, par exemple, 0,8, va acheter un produit qui vaut 1200 francs, ça a beaucoup plus de valeur que les 3 ou 4 bandeaux publicitaires qu'il aurait pu regarder sur son site à 20 centimes. Alors, il y a des sites qui vendent plus cher, mais ça peut être justifié. Si ces sites vendent plus cher parce qu'il a un délai de livraison qui est plus court, parce que les paiements sont gérés de manière parfaite, qu'il n'y a jamais de problème à la livraison, etc., c'est justifié. Et le guide d'achat doit vous le dire. D'accord ? Donc, on est totalement indépendant, je dirais plutôt, des marchands. On est au service des utilisateurs. Et donc, c'est pour ça que je disais, il n'y a que la qualité qui paye, quelle qu'elle soit. Hein, donc, que ce soit parce qu'il vend moins cher, que ce soit parce qu'il livre plus vite, que ce soit parce qu'il a le paiement le plus sécurisé, etc. Donc, finalement, au bout du compte, tout ça s'est traduit par des meilleurs services pour les utilisateurs.
Oui.
Sur la gauche, là.
Oui,
pardon. J'ai trois questions. Je ne sais pas si vous répondrez aux trois. La première, je voudrais savoir si l'architecture Corba est compatible avec les systèmes agents. La deuxième, quels sont les rapports entre la vie artificielle et les systèmes multi-agents. Et la troisième, est-ce que ces techniques intéressent les administrations, les collectivités locales, notamment pour les plans de prévention des risques?
Je vais répondre aux trois. Donc, par rapport à Corba, donc, Corba, c'est une plateforme qui permet essentiellement donc d'implémenter, comme on dit, des applications distribuées, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ça permet aux différents programmes qui composent ces applications de communiquer entre eux. Et soit on utilise Corba, soit on ne l'utilise pas. C'est un choix. Alors, nous n'avons pas fait d'implémentation Corba. On pourrait la faire. En général, ce qu'il faut faire, c'est rajouter ce qu'on appelle des interfaces au programme, donc à nos agents ou aux médiateurs, etc. Donc les logiciels qui composent les systèmes de médiation, d'information, pour qu'ils soient compatibles Corba. Dans notre cas, ce n'était pas nécessaire, puisque nous accédons les sites marchands à travers HTTP. Donc, on utilise un protocole particulier qui permet de se connecter au site, d'extraire des informations, et on n'a pas à communiquer avec des programmes qui sont sur les sites marchands. Donc, la réponse est qu'on n'est pas compatible Corba parce qu'on n'a pas implémenté en utilisant Corba. La deuxième question, c'est par rapport au système multi-agent et la vie artificielle, ou plutôt ces comportements un peu intelligents dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, les gens qui travaillent donc en intelligence artificielle, depuis très longtemps, en fait, utilisent ces modèles qui est social, qui est une communauté d'éléments qui ont une spécialité et une intelligence particulière. Alors, ce qui permet aujourd'hui les plateformes à agents, donc, dans lesquelles on a de plus en plus d'outils pour les exécuter, pour les faire migrer, comme je disais, qui ça leur permet de se déplacer, et ça permet d'exécuter des centaines d'agents qui communiquent entre eux, etc. Donc on a en fait une infrastructure plus puissante qu'avant. Ce qui fait qu'on peut bâtir des systèmes plus complexes, avec des centaines d'agents qui interagissent entre eux, ce qui n'était pas possible avant. Les ordinateurs sont plus puissants, donc plus rapides, etc. Donc ça fait qu'on peut écrire des programmes plus complexes qui sont capables de faire plus de choses. Et donc, finalement, petit à petit, on va être capable de reproduire des comportements de plus en plus complexes avec des applications peut-être au niveau scientifique, médical, etc. Donc, vous parliez des vies artificielles, donc c'est un peu reproduire le fonctionnement d'un être humain donc à travers des programmes. Donc, c'est une voie qui est effectivement facilitée ou rendue plus accessible grâce à cette technique de programmation. Je pense qu'effectivement, c'est très positif. Et du coup, j'ai oublié la dernière question. Pardon ? Ah oui, donc tout à fait. Donc dans mon incarnation en tant donc chez Bull, j'ai démarré quelques projets d'application de cette technologie, dont un projet qui est en cours, dans lequel il s'agit de faire la coordination de sécurité civile européenne en permettant d'accéder en cas de catastrophes naturelles, par exemple un tremblement de terre, inondation, accident chimique et autres, ou radioactifs par exemple, de coordonner les actions des équipes de secours ou d'intervention grâce à l'accès à des informations qui sont distribuées dans les différents pays de la communauté européenne. Il y a des pays qui sont un peu spécialisés dans les tremblements de terre, par exemple l'Italie, la Grèce, etc. D'autres qui sont plus spécialisés dans les accidents nucléaires, etc. Donc ces informations sont un peu partout et des technologies comme celle-ci permettent donc d'aller chercher les informations, les ramener, les consolider et les présenter à celui qui est en train d'intervenir. Donc la réponse, effectivement, les administrations s'y intéressent.
Oui.
S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question concernant la vie personnelle des individus que nous sommes. Vous avez pris deux exemples particuliers, le choix d'un livre. Bien entendu, pour le choix d'un livre, l'exposé que vous avez fait est très clair et très compréhensif. Par contre, vous avez évoqué le prêt fait auprès d'une banque. Bien entendu, si je demande un prêt auprès d'une banque quelconque et qu'il applique le programme que vous présentez, il y aura un résultat quelconque dont le banquier pourra tenir compte ou ne pas tenir compte. Cela étant, si, évitant votre programme ou en tenant compte d'une façon secondaire, je vais voir un fondé de pouvoir ou le directeur d'une banque et je lui présente des arguments qui me sont personnels. Je dirais par exemple l'espoir d'un héritage ou la décision d'une vente quelconque, ou tel et tel événement qui m'est personnel et que je ne tiens pas à dévoiler par écrit ni devant notaire. C'est une convention. Selon les connaissances qu'a ce banquier de moi-même, selon les relations que nous avons, il pourrait prendre une décision nonobstant votre argumentation. Mais lorsque, au début de votre exposé, vous évoquez la possibilité que, un jour peut-être, un agent pourrait avoir des émotions ou une impression, est-ce que cela sous-entend, dans le cas d'un prêt bancaire, que vous iriez jusqu'à tenter de forcer, en quelque sorte, les informations plus ou moins personnalisées que je ne tiens pas à dévoiler et dont vous pourriez éventuellement avoir connaissance d'une façon illégale ou indirecte?
Oui.
Quelle précaution puis-je avoir, moi particulier, de ma propre sécurité?
Vous posez là une question d'éthique, bien entendu. On peut la rapprocher des problématiques qu'on voit aujourd'hui, par exemple, sur les manipulations génétiques et d'autres domaines de ce type-là, c'est-à-dire jusqu'où on ira dans l'application de la technologie, qu'elle soit au niveau scientifique, médical ou informatique. Donc, je n'ai pas de réponse, bien entendu. La présentation que j'ai faite se place à un niveau purement technique, donc pour dire qu'aujourd'hui, on va dans cette voie-là. Quand on essaye de reproduire des comportements humains et donc par exemple reproduire la capacité des jugements ou d'avoir des sentiments, au départ il faut voir seulement un but scientifique. Les bien fondés des applications telles que vous l'évoquez là, sera décidé par les personnes qui sont chargées. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la commission donc informatique et liberté qui évite que certaines informations soient utilisées d'une certaine manière. Et je pense que dans le futur, ça sera fait de la même manière pour des cas beaucoup plus complexes, comme vous l'évoquez, hein, des agents qui seraient éventuellement capables d'analyser des informations très personnelles que vous ne teniez pas dévoilées. Est-ce que l'agent est programmé de telle manière qu'il va en quelque sorte tenir sa langue, c'est-à-dire qu'il ne va pas raconter à d'autres agents ce que vous lui avez dit. Donc tout ça, c'est des questions pour lesquelles, évidemment, je n'ai pas des réponses et qui vont poser des problèmes d'éthique très, très importants à notre société. Et donc, c'est une évolution à laquelle il faudra faire face et je pense que ça ne sera pas facile à gérer. Donc votre question, je pense, elle est très profonde. Merci.
Une dernière question.
Vous avez dit que les marchands auraient des clients, si je puis dire, déjà préparés, presque consentants à l'avance. Et par exemple pour les livres. Et je me demande si, ayant des clients, disons, dont vous avez vous-même analysé le désir, et ce désir se concrétise complètement, très rapidement, puisque vous avez l'air de penser que le travail préalable que vous avez fait, disons, va engager va inciter le client à acheter ce que vous lui avez proposé finalement. Est-ce que la tentation du marchand ne va pas être de rédiger des emails ou quelques messages de ce type pour, connaissant les intérêts du client, pour que d'autres produits rentrant dans ce même type de gamme soient achetés presque automatiquement par le client qui était un peu préprogrammé à l'achat par vos soins.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre
oui,
question,
c'est pas très clair,
mais je pense que vous faites allusion à une certaine manipulation
oui, c'est ça.
De la part des marchands à travers le guide d'achat, c'est ça?
C'est ça.
En fait, le guide d'achat, je ne dis pas que c'est impossible, mais le guide d'achat essaye de rester neutre. Donc, ce qu'il va essayer de faire, c'est...
Il n'est pas vraiment neutre.
Ah, si? Si, parce que ce que vous dites, je voudrais acheter un ordinateur avec telle caractéristique ou un livre avec tel titre écrit par telle personne. Moi, je vais voir qui le vend sur Internet et je vais vous dire, celui-ci le vend à tel prix. Et après, c'est vous qui choisissez.
Vous ne maîtrisez pas l'ensemble du marché, vous
ne maîtrisez pas. Exact.
C'est un
choix. Oui, donc on fait le mieux qu'on peut. C'est-à-dire qu'on essaye d'accéder à un maximum des marchands de manière à couvrir vraiment le spectre le plus large. Bien entendu, on a commencé, par exemple, dans tous les domaines qu'on adresse, donc les marchands les plus importants qui offrent le plus grand nombre de produits. Puisque l'idée, c'est que les gens, d'abord, trouvent ce qu'ils veulent. Donc, on adresse les marchands qui vendent beaucoup de produits. On adresse, bien entendu, les marchands les plus compétitifs, les plus fiables, ceux qui ont un paiement sécurisé, ceux qui livrent correctement, etc. Donc, effectivement, vous avez totalement raison. Donc, on est indépendant, mais on n'est pas exhaustif. Ça, c'est vrai. Donc ça introduit un peu un biais, mais bon, on ne peut pas l'éviter. Il est impossible d'être totalement exhaustif. De la même manière que lorsque vous cherchez un livre, vous n'effraierez pas tous les magasins de la ville.
Bien, je vous remercie.